Donc, je voulais juste vous parler un peu d'une règle qu'on appelle le surplus agrégé du consommateur, donc qui a été proposé par l'économiste français Dupuis au XIXe siècle et qui mesure le bien-être général qui résulte d'une politique économique, construction d'un pont, etc., en prenant l'air sous une courbe de demande. Hein, donc, parce que très souvent, les politiques économiques auxquelles on va s'intéresser ici sont des politiques économiques qui vont avoir des effets sur les prix et sur les revenus des individus. Donc on va être dans un cadre où les individus vivent dans une économie de marché. Alors c'est pour ça qu'on va préciser ici soigneusement l'ensemble des alternatives sociales, grand X, qui sera donc vraiment l'ensemble RNL+, pour une spécification en tout cas, et donc c'est l'ensemble de toutes les allocations de L biens entre les N individus, et les quantités de biens ici peuvent être négatives ou ne peuvent pas être négatives, peuvent être donc positives ou nulles, okay. Et il y a N individus. Et dans cette approche, je vais pouvoir parler du panier de l'individu, XI, c'est ce que reçoit l'individu, les quantités des L biens qu'il reçoit. XI, donc c'est un élément de RL+, c'est une liste de L nombres qui correspondent aux L quantités des L biens que reçoit l'individu I dans l'allocation X, okay. Et il y a une allocation comme ça par individu. Donc, I est indicé de 1 à N. Et l'individu a des préférences. Et ce sont des préférences économiques, cette fois-ci. Donc, des préférences qui sont continues, convexes, monotones, et qui sont égoïstes. Égoïstes au sens où, lorsqu'on regarde ces préférences comme étant définies sur l'ensemble des états sociaux, c'est-à-dire sur l'ensemble des allocations, l'individu ne s'intéresse qu'à ce qu'il a dans son assiette. Il ne regarde pas dans l'assiette du voisin. Ce qui veut dire, donc ça c'est la définition formelle de l'égoïsme, donc si on prend n'importe quel individu I et n'importe quel quadruplé ou quatre états sociaux W, X, Y et Z, qui sont des allocations de L biens entre les N individus, eh bien si jamais l'individu I a la même chose dans W que dans X, et il a la même chose dans Y que dans Z, hein, d'accord, eh bien le classement qu'il va faire de X et de Y va être le même que de W et de Z. D'accord, parce que X et W d'une part, et Y et Z, d'autre part, sont pareils pour lui. Okay. Et donc, il va, en fait, ordonner les biens, les allocations, simplement sur la base de ce qu'il reçoit dans chacune d'entre elles. Donc, l'égoïsme, en fait, implique que nous pouvons concevoir les préférences individuelles comme n'étant pas définies sur l'ensemble des états sociaux, mais seulement sur l'ensemble des paniers. Voilà. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce que c'est que le surplus du consommateur? Eh bien, on va admettre que les individus évoluent dans un environnement concurrentiel. Donc, ils vivent dans une économie de marché. Pour Dupuis, c'était très important. Et donc, dans une économie de marché, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, chacun des biens, chacun des L biens qui importent pour eux, eh bien, a un prix de marché. Donc, pour obtenir une quantité d'un de ces biens, qu'est-ce qu'ils doivent faire, les individus? Ils doivent passer au porte-monnaie, ils doivent donner de l'argent pour obtenir une unité d'un bien. Et s'ils en veulent deux, ils doivent donner deux fois le prix du bien. D'accord? Et ce prix des biens est une donnée indépendante du contrôle des individus. Les individus sont petits par rapport au marché, ils n'ont pas le pouvoir de négocier, d'aller. Ce n'est pas le marchand de tapis, si on veut. Ils vont au magasin et les prix sont là, ils ne peuvent pas toucher au prix et ils décident seulement d'acheter ou de ne pas acheter, ou d'acheter beaucoup ou de ne pas acheter. Donc l'individu I est confronté au prix P1, PL, chaque bien a un prix, et l'individu a une richesse WI, en argent, en euros. Hein. WI, c'est l'argent dont il dispose pour aller sur le marché. Et donc, ce sont les paramètres qui vont être influencés par les politiques. Très souvent, les politiques influencent les prix TTC. Hein. Ce sont des prix TTC, si je voulais les aborder correctement. Des prix TTC et WI, c'est le revenu de l'individu. Donc, la fiscalité, par exemple, influence le revenu de l'individu, influence aussi les prix des biens. Hein. Alors, donc, dès que je définis des prix et une richesse, je définis ce qu'on appelle en microéconomie l'ensemble de budget de l'individu. L'ensemble de budget de l'individu, c'est l'ensemble de tous les paniers de L biens que l'individu peut se procurer. Donc, qui sont tels que lorsque je les achète au prix P, ces paniers, ils coûtent moins cher, faiblement, que la richesse dont dispose l'individu. Okay. Donc, on appelle ça l'ensemble de budget. C'est l'ensemble de tous les paniers que l'individu peut se procurer, étant donné les prix et sa richesse. Et la préférence que l'individu a sur les paniers de biens, en fait, induit, comme on apprend ça en microéconomie, là, je vais faire un tout petit peu de microéconomie, mais je sais que vous en avez peut-être déjà fait. Je ne vais pas être très détaillé, mais je vais quand même me référer à des résultats de microéconomie. Vous parlez des surplus du consommateur, j'en ai besoin. Donc, la préférence de l'individu qui, au départ, définit sur des paniers de biens, en fait, ça induit une préférence qu'on appelle indirecte une préférence, comme ça, I avec un indice I majuscule en haut, pour parler d'indirect, une préférence indirecte sur les prix et la richesse. Comme si l'individu, il comparait les prix, les différents vecteurs de prix, les différents prix qui existent, et la richesse. Comme si l'individu, il consommait des prix et de la richesse. Bien sûr, les gens, les prix et la richesse, ce n'est pas intéressant en soi. C'est intéressant parce que si je suis confronté à des prix et j'ai une certaine richesse, ben, je peux me permettre d'acheter des biens. Donc, les biens, c'est ce qui commande la préférence, mais indirectement, les préférences sur les paniers de biens induisent une préférence pour les combinaisons de prix et de richesse. Et cette préférence, elle est définie comme suit. La combinaison de prix et de richesse PW est mieux pour l'individu au sens de la préférence indirecte que la combinaison P'W'. Si, pour n'importe quel panier X' que peut se procurer l'individu dans son budget défini par les prix P' et W', je peux trouver un panier X dans le budget défini par les prix P et W que l'individu préfère. Donc, c'est l'idée de la préférence pour le choix maximal. Donc, ce qui va arriver, c'est que l'individu confronté au prix PW, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire, l'individu? Il a son budget, il va choisir un panier qu'il préfère. Lorsqu'il est confronté au prix P'W', il va choisir un panier qu'il préfère aussi là. Et donc, il va comparer PW à P'W' sur la base de sa préférence pour le panier choisi dans les deux éléments. Okay? Donc, indirectement, ça va faire une préférence pour les différents budgets. Et ça, on sert beaucoup de ça en économie publique, en évaluation de politique, pour évaluer l'inflation, évaluer les conséquences des prix. En fait, ce qu'on compare, c'est on compare l'ensemble de budget d'un consommateur, on compare le pouvoir d'achat du consommateur. Okay? Et donc, si j'ai des préférences pour les paniers, ces préférences sont représentées par une fonction d'utilité. Ça, on sait qu'on peut toujours le faire. Si les préférences sont continues, il y a un théorème de Debreu qui nous dit que je peux toujours représenter numériquement ces préférences par une fonction d'utilité. Je peux associer des nombres à des paniers et les nombres sont ordonnés exactement de la même manière que les paniers sont ordonnés dans les préférences du consommateur, de l'individu ici. Et donc, cette fonction d'utilité, je l'appelle U, I de X, I. Donc, si U de X est plus grand que U de Y, ça veut dire, et ça ne veut rien dire d'autre, que le panier X est préféré au panier Y. Okay. Et je peux aussi représenter numériquement mes préférences, j'espère qu'on voit toujours bien, mes préférences indirectes. Mes préférences indirectes, donc c'est une préférence qui... Ouh là là, j'aurais pas dû toucher à ça. C'est une préférence qui c'est une fonction d'utilité qui représente les préférences indirectes de l'individu pour les L prix et le niveau de richesse. Et donc, c'est une fonction d'utilité qui a L plus un argument, hein, parce qu'il y a L prix et un niveau de richesse. Et c'est la fonction d'utilité indirecte, qu'on appelle en microéconomie. Okay. Et cette fonction d'utilité, elle associe à tout prix et à toute richesse l'utilité maximale obtenue par l'individu lorsqu'il est confronté au prix P et qu'il a une richesse de WI. Il maximise son utilité, comme on dit, et il a l'utilité maximale. Et cette utilité maximale, la fonction qui relie à chaque prix et à chaque richesse l'utilité maximale, c'est l'utilité indirecte, qui se distingue de l'utilité directe, qui nous donne la relation entre le panier et l'utilité reçue par le consommateur. D'accord ? Donc, c'est, les Incas, on avait dit qu'ils avaient été très surpris de voir que les Européens adoraient l'or. Ils cherchaient de l'or partout. Et puis, il y avait même un chef Inca qui avait demandé à un conquistador espagnol si vraiment il mangeait de l'or. Qu'est-ce qu'il faisait avec tout cet or ? Pourquoi il en voulait autant ? Donc ici, effectivement, les gens ne mangent pas d'or ou ne mangent pas de richesse, mais utilisent la richesse et les prix pour obtenir d'autres biens et services qu'ils mangent ou qu'ils consomment. Alors le problème d'analyse coût-bénéfice appliqué classique qu'on a, c'est qu'on veut comparer des configurations alternatives de prix et de richesse. On veut se dire, est-ce qu'une société est mieux lorsque les prix sont de P et que la redistribution des richesses est W1 pour Madame 1, W2 pour Madame 2, WN pour Monsieur N, à une autre configuration où les prix sont Q et les richesses sont différentes. On veut comparer des distributions de richesses et des prix communs. Hein, les prix vont être communs aux individus, les individus auront le même environnement marchand, ils sont confrontés au même prix, mais par contre, leur richesse varie et les politiques économiques font influencent ces prix, cette richesse, de différentes manières, par différents mécanismes. Là, on a vu que nos députés, par exemple, ont décidé de faire en sorte que les courses sur Amazon vont coûter plus cher. Hein. Maintenant, vous avez vu qu'il y a eu unanimité des députés de l'Assemblée nationale pour augmenter les prix des ouvrages vendus sur Amazon en interdisant à Amazon de donner une ristourne sur la livraison à domicile des livres. Donc, c'est interdit en France, donc ça va augmenter un peu le prix du livre. Donc, une décision. Et donc, c'est ce genre de décision qu'on peut apprécier par ces outils. Alors, le surplus agrégé du consommateur. Alors, pour utiliser donc le surplus agrégé du consommateur, il faut que j'arrive à concevoir l'idée que je puisse mesurer les préférences des individus, que je puisse évaluer les préférences des individus de manière monétaire. Et donc, c'est basé sur l'idée qu'on peut représenter la préférence de chaque individu par une évaluation qui est exprimée en monnaie. On appelle ça une représentation monétaire des préférences, money metric en anglais. Alors, effectivement, on peut définir ce qu'on appelle en microéconomie la fonction de dépense pour toute configuration de prix qui peut survenir et pour tout niveau d'utilité de référence d'un individu, qu'on prend, quelconque. On peut définir la fonction de dépense ou de expenditure en anglais, E de PU. C'est une fonction qui est définie par un programme mathématique qui est le suivant, qui consiste à minimiser la dépense du consommateur au prix P au niveau d'utilité U. C'est la plus petite dépense, la plus petite dépense, donc on minimise en choisissant les quantités des L bien soigneusement, on minimise la dépense que doit faire le consommateur au prix P, donc la somme de chacun des prix fois chacune des quantités. On minimise cette dépense sous la contrainte que le panier qu'on va donner au consommateur, panier X1, X2, XL, va permettre au consommateur, étant donné son utilité, d'atteindre un certain niveau d'utilité U. Donc ça dépend de U. Okay? Donc c'est l'idée de, on minimise une dépense en argent nécessaire pour que vous atteigniez un niveau d'utilité. Donc ça dépend d'un niveau d'utilité que je me donne et ça dépend des prix. Parce que forcément, la dépense que je vais devoir consacrer à ça va dépendre des prix. Okay? C'est un petit peu comme ce qu'on faisait ici, c'est on se dit, on veut donner, par exemple, c'est un problème de minima sociaux, on veut donner aux gens qui sont sur le minimum social un niveau d'utilité et je cherche quel est le meilleur moyen en France de leur donner ce niveau d'utilité au moindre coût, étant donné les prix français. Et je calcule ça, je cherche un peu les paniers de consommation qui minimisent cette dépense, et ça me donne un montant en argent, et je dis, on va donner ça comme RMI aux gens, ou comme RSA. Et ça va être, voilà, par exemple, c'est ce genre de choses. Okay? Donc ça associe à tout niveau d'utilité, le montant minimal de dépenses nécessaires au prix P pour atteindre ce niveau d'utilité. C'est une fonction qu'on appelle de dépense en économie. Elle est croissante par rapport à l'utilité. C'est facile de montrer mathématiquement qu'elle est croissante par rapport à l'utilité. Si j'augmente l'utilité, il faut plus de choses pour l'individu. Et elle est aussi croissante par rapport au prix, mais ça, on s'en fiche. Elle est surtout croissante par rapport à l'utilité. Et donc, comme elle est croissante par rapport à l'utilité, eh bien, elle fournit une mesure de cette utilité. Parce qu'une fonction d'utilité, c'est défini à une transformation croissante près. Hein? Dès que j'ai une fonction d'utilité, dès que je prends n'importe quelle transformation monotone croissante de cette fonction d'utilité, j'ai une autre fonction d'utilité. Donc celle-ci me donne une fonction d'utilité qui est exprimée en monnaie. Elle est exprimée en monnaie parce qu'elle dépend des prix. Elle fournit pour cette raison une représentation numérique en unité monétaire des préférences. Okay. Donc il y a deux types de ces mesures monétaires. Il y a ce qu'on appelle la mesure monétaire directe, hein, qu'on appelle mu de P de X, qui associe à tout panier X et à tout prix de référence, la dépense minimum qu'a besoin un individu au prix P pour atteindre la satisfaction qu'il atteint avec X. C'est la dépense requise au prix P pour avoir le niveau de satisfaction atteint avec le panier X. Okay? Ce qu'on appelle la mesure monétaire directe, directe parce qu'elle dépend directement du panier. Et il y a une version qui est plus utile pour le surplus du consommateur, qui est la mesure monétaire indirecte, qu'on appelle mu de PQW. Alors elle est un peu plus compliquée à formuler, hein, donc c'est un concept un petit peu. Mais ce qui n'est pas très difficile, mais c'est un petit peu subtil à formuler, c'est la dépense minimum dont a besoin un consommateur au prix P pour atteindre le plus grand niveau d'utilité qu'il pourrait atteindre si les prix étaient Q et il avait une richesse de W. Okay. Donc c'est compliqué, hein. C'est la plus petite dépense dont il a besoin au prix P pour atteindre le niveau d'utilité maximal dont il a besoin au prix Q pour atteindre le niveau au prix Q avec une richesse W. Avec une richesse W. Okay. Donc, c'est la dépense requise au prix P pour atteindre la satisfaction obtenue au prix Q avec un revenu de W, un revenu ou une richesse. D'accord? Donc, ce sont deux mesures monétaires. Et j'insiste là-dessus, ces mesures monétaires dépendent des prix de référence. Okay? Donc, toutes ces mesures sont formulées pour des prix de référence, des prix P, qui sont très importants. En pratique, lorsqu'on évalue des politiques économiques qui nous font passer de prix P à prix Q, qu'est-ce qu'on prend comme prix de référence? Mais il y a deux grandes pratiques qu'on fait, hein? Une pratique qui est liée à ce qu'on appelle les variations compensatrices, on prend les prix de référence après le projet. On fait un projet qui nous fait passer de P à Q, et après le projet, il y aura des prix Q, et on prend comme prix de référence les prix qui prévalent après le projet. Mais parfois aussi, on prend les variations équivalentes, c'est-à-dire on prend les prix qui prévalent avant le projet. Mais c'est important de bien comprendre que ces mesures dépendent des prix de référence. Forcément, un euro, la valeur d'un euro, ça dépend des prix. Moi, je me souviens quand j'avais voyagé en Europe il y a très longtemps, pour la première fois, À l'époque, il y avait des lires italiennes. J'avais 19 ans à l'époque et j'avais converti des dollars canadiens en lires italiennes. Et au début, j'étais très content de ma conversion parce que pour un dollar, j'avais 1500 lires. Donc, j'étais parti avec des centaines de milliers de lires. Et j'étais très, très, très excité. Je me disais, 100 000. Mais en fait, quand on arrive en Italie et on voit qu'un café coûte 2500 lire, eh bien, on comprend vite que, en fait, tout ça, c'est... Donc, l'argent, la valeur de l'argent dépend des prix. Et c'est très important. Le surplus du consommateur, on continue. Alors, ces mesures monétaires de l'utilité sont liées au comportement de demande du consommateur, du comportement observable. C'est pour ça que Dupuis avait aimé cette idée, comportement observable. Alors, ce comportement du consommateur, je vous rappelle rapidement comment il est lié à ça. Il se définit par des demandes marshalliennes. Les demandes marshalliennes, ce sont les quantités des L biens que choisit le consommateur, okay, lorsqu'il maximise son utilité en choisissant un panier dans son ensemble de budget. Son ensemble de budget qui dépend des prix et de la richesse. Donc, ces demandes marshalliennes, ce sont les demandes ordinaires que vous exprimez sur le marché quand vous allez faire vos courses tout le temps, en fonction des prix qui prévalent et en fonction de la richesse dont vous disposez. Si la richesse change ou si les prix changent, vos quantités changent. Donc, ça, c'est la définition des demandes marshalliennes. Okay. On trouve aussi en microéconomie ce qu'on appelle les demandes Xiennes, les demandes compensées, okay, qui sont, elles, des demandes un peu bizarres, qui ne sont pas des demandes observées, qui sont des demandes qui sont en fonction des prix et d'un niveau d'utilité. Donc, on n'observe pas le niveau d'utilité. Donc, c'est des demandes un peu bizarroïdes, hein, que les économistes ont inventées, mais que personne ne peut observer en réalité. Ce sont des demandes qu'on obtiendrait si on résolvait le programme suivant, on minimisait la dépense, justement, le programme qui donne la fonction de dépense, on minimisait la dépense requise au prix P pour atteindre un niveau d'utilité U. On choisirait des quantités de biens pour faire ça. On choisirait une quantité de tomates, une quantité de pommes, une quantité de caviar, qui serait sans doute nulle si le niveau d'utilité était faible, parce que c'est très cher le caviar, et on choisirait des quantités de biens comme ça, et on les choisirait en fonction des prix et de l'utilité. On aurait donc des demandes Xiennes, qu'on appelle parfois des demandes compensées, parce qu'on peut voir ces demandes-là comme résultant du fait que les prix peuvent changer, mais qu'on va compenser l'individu pour qu'il garde toujours un niveau constant d'utilité. Parfois, on les appelle les demandes compensées. Et elles dépendent, ces demandes-là, d'un niveau inobservable d'utilité. Okay. Alors, le problème, c'est qu'elles ne sont pas vraiment observables, parce que l'utilité, moi, je ne sais pas ce que c'est, je n'observe pas ça. J'observe, en revanche, le revenu et les prix, ça, je l'observe, mais l'utilité, je ne l'observe pas. Mais la créativité des économistes et la compréhension de ces concepts a permis, effectivement, de relier l'observable à l'inobservable par 6 identités importantes. Donc, je ne vais pas vous faire de cours de microéconomie ici, mais je vais juste vous énoncer ces identités qui jouent un rôle pour justifier le surplus du consommateur. Il y a 6 identités importantes qui sont valides. Ce sont des identités, donc c'est toujours vrai. Ce n'est pas des égalités fortuites. Ce sont des identités qui sont valables, quels que soient les prix, quelle que soit la richesse, quel que soit le niveau d'utilité, entre tous ces concepts. Je sais que j'y vais un peu vite, là. Ce sont des concepts qui viennent de bouquins de microéconomie. Je n'invente rien ici. Donc, d'abord, la dépense requise au prix P pour atteindre l'utilité maximale dont j'ai besoin au même prix P lorsque j'ai un revenu de W, c'est W. Okay. Alors, voilà, si je veux dépenser la plus petite dépense que je peux faire au prix P pour atteindre la plus grande utilité que je peux atteindre à ces mêmes prix P avec une richesse de W, c'est W. Okay. Ce sont des identités qui sont valables sous les hypothèses qu'on avait sur les préférences, hein, notamment la non-saturation locale. Deuxième identité, l'utilité maximale que je peux atteindre, la plus grande utilité que je peux atteindre lorsque je suis confronté au prix P, et que mon revenu ou ma richesse, c'est la dépense minimale dont j'ai besoin au même prix pour atteindre le niveau d'utilité U, eh bien c'est U. Troisième identité, elle concerne les demandes Xiennes et Marshalliennes, elle est très utile parce qu'elle relie l'observable à l'inobservable. Troisième identité, la quantité marshallienne de biens J, la quantité de biens J que je demande, moi, Nicolas Gravel, lorsque je suis confronté au prix P et que j'ai un revenu qui est égal au revenu minimum dont j'ai besoin, au même prix P, pour atteindre le niveau d'utilité U, eh bien, cette demande de biens J, c'est rien d'autre que la demande compensée de biens J. La demande de biens J dont j'ai besoin au même prix P pour avoir le niveau d'utilité U. J'ai une relation inverse qui me dit que la quantité de bien J que je demande au sens xien du terme lorsque je suis confronté au prix P et que je veux atteindre au moindre coût le niveau d'utilité maximale que je souhaite atteindre lorsque je suis confronté au prix P et que j'ai une richesse de W, c'est la demande marshallienne de bien J au prix P et à la richesse W. Et finalement, il y a 2 identités qui concernent le calcul différentiel qui nous dit que la demande marshallienne de bien J lorsque les prix sont P et que le revenu est W, et rien d'autre que le taux marginal de substitution en utilité indirecte entre le prix du bien J et la richesse. Donc ça nous donne un petit peu le rapport de l'utilité marginale indirecte d'une hausse du bien J, qui est une utilité négative. Hein. Moi, si le prix du bien J augmente, je ne suis pas heureux, toute chose égale par ailleurs. Je perds du pouvoir d'achat, donc mon utilité maximale diminue. Donc ça, c'est un terme négatif. Et par contre, si mon revenu augmente, je suis content. Et donc le rapport des deux, c'est le taux marginal de substitution du prix du bien J sur la richesse. Et ce taux marginal de substitution me donne en fait la quantité marshallienne de bien J. Et c'est toujours vrai, hein, ce sont des identités. Et la dernière, c'est ce qu'on appelle le lemme de Shepard, qui va jouer un rôle ici, qui nous donne un peu une identité analogue pour la dépense, qui me dit que si je dérive la dépense par rapport au prix du bien J, eh bien, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la demande xienne de bien J, la demande xienne de bien J au prix P et au niveau d'utilité. Donc j'ai ces six identités qui se démontrent assez facilement, qui viennent de la microéconomie. D'accord. Alors, maintenant, on va voir comment le surplus du consommateur, qu'est-ce que c'est que le surplus du consommateur. On va donc comparer maintenant, ce qu'on va faire socialement, c'est qu'on va imaginer une politique quelconque, qui va faire passer l'économie française, disons, d'une situation où les prix sont payés et où la richesse de Monsieur 1 est W1, la richesse de Madame 2 est W2, la richesse de Monsieur N est WN, à une autre situation où les prix TTC sont P', un prix par bien, possiblement différent, peut-être les mêmes, et où les richesses des Français seront différentes, W1', WN'. Et le problème de la politique économique, de l'évaluation de la politique économique, c'est de dire ben, laquelle des deux situations est la bonne. Okay. Alors, le critère qu'on va utiliser ici, c'est un critère de somme des mesures monétaires de la satisfaction. On va dire que P, W1, WN est mieux que P', W1', WN', si et seulement si la somme des évaluations monétaires de l'utilité indirecte atteinte par l'individu I lorsque les prix sont P et qu'il a une richesse WI, au prix de référence P, est plus grande ou égale à la somme, sur tous les individus I, de leur évaluation monétaire de leur satisfaction lorsque les prix, au prix de référence P, les mêmes prix de référence, lorsqu'ils sont dans la situation P' et qu'ils ont donc l'utilité maximale qu'ils peuvent atteindre dans cette situation, VI de P', WI'. Alors quand je fais ça, j'insiste là-dessus, j'emploie une méthode qu'on appelle en analyse avantage-coût, la méthode des variations équivalentes. Parce que le prix de référence, ici, si vous le voulez bien croire, c'est le prix de référence avant le projet. Je ne vous ai pas dit qu'est-ce que c'était avant ou après le projet, d'accord? Mais ici, je fais l'analyse avec des prix de référence P. Hein, les prix de référence P. Okay. Que je pourrais interpréter comme étant les prix avant le projet. Si vous préférez penser que P, c'est après le projet, à ce moment-là, donc je prends les prix après le projet. Mais vous avez vu que je prends des prix de référence communs. Okay? Et c'est très important de bien spécifier quels sont les prix de référence. Okay? Il y a différentes variantes de ces méthodes suivant les prix de référence. D'accord? Donc je vais faire la somme sur les individus. Donc c'est une méthode très particulière. Je somme des mesures monétaires de l'utilité. Des mesures monétaires très particulières, vous allez me dire, qui sont donc la dépense minimum dont a besoin Monsieur I au prix P pour avoir le même niveau d'utilité que l'utilité maximale qu'obtient Monsieur I au prix P lorsqu'il a une richesse de WI. Okay. Et je compare ça avec la dépense minimale dont il a besoin au même prix P pour atteindre le niveau d'utilité maximale de Monsieur I, hein, de Monsieur I au prix P' et W'. D'accord. Donc on va développer cette somme. Okay. Donc on va la réexprimer comme ça. Là, je fais passer ce terme-là de l'autre côté. Donc ce que je veux, c'est que ça soit plus grand ou égal à zéro. Donc la somme soit plus grande ou égale à zéro. Et là, on va utiliser nos identités pour exprimer cette somme d'une manière un peu différente. On va donc d'abord faire cette petite manipulation qui n'est pas très profonde ici. Qu'est-ce que je fais ici? C'est la même chose que ça. La seule différence, c'est que j'ajoute un terme UI. Donc là, je prends une somme. Hein. Je prends une somme I va de 1 jusqu'à N et je fais une somme de termes entre parenthèses. Et dans la parenthèse, qu'est-ce que je fais? Je m'ajoute un terme qui vous allez me dire non pertinent, UI de P' VI de P' WI', et j'enlève ce même terme. Donc j'ajoute quelque chose et je l'enlève. Rien de nouveau sous le soleil. Hein. C'est exactement la même chose que là. D'accord? Donc c'est pour ça que ceci et là, c'est rien d'autre que hein, la même chose. Donc c'est nul. J'ai le droit de faire ça. Ça ne mange pas de pain. Ensuite, ce que je fais, c'est que eh bien là, je vais pouvoir utiliser mes identités. Parce que là, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai que ici, j'ai la dépense minimum dont j'ai besoin au prix P pour atteindre le niveau d'utilité maximale dont j'ai besoin au même prix P pour avoir WI. Et ça, je vous ai dit que c'est WI. Donc ça, ici, c'est WI. Okay. Ensuite, là aussi, c'est pareil. Ça, c'est la dépense dont j'ai besoin au prix P' pour avoir le même niveau d'utilité que le niveau maximal d'utilité que je pourrais atteindre au prix P' si j'avais une richesse WI'. Et ça, c'est WI'. Ça, ici, voilà. Okay. Et puis ensuite, ça, eh bien, c'est ça. On le voit ici, ce terme-là, ici, c'est celui-ci. Et ce terme-là, c'est celui-là. Donc, je fais juste écrire la même chose en utilisant mes deux identités. Mon identité 1 que j'ai évoquée tout à l'heure. Okay. Donc là, ici, ça nous dit que ça se rapproche de quelque chose qui... Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait? On somme les revenus individuels. On compare ces deux situations sur la base des sommes de revenus. La somme de revenus des individus dans la première situation, moins la somme des revenus dans la seconde, plus un certain terme qui est une différence de deux fonctions de métrique monétaire. Et on va maintenant vous dire ce que c'est que ça. Ça, en fait, ce n'est rien d'autre qu'une somme sur tous les individus. Une somme sur tous les prix des biens d'intégrale sous des demandes xiennes. Allant du prix PJ' au prix PJ. Donc, on fait passer l'intégrale, on fait passer le prix de PJ' ici à PJ. Et on intègre, et on fait la somme de ça sur tous les prix qui vont augmenter. Et on fait donc cette intégrale ici, de la demande xienne de bien I, qu'on évalue au prix P1, PJ-1, qui sont les prix avant le, ou après le projet. Ensuite, on fait l'intégrale par rapport au prix QJ. Et les autres prix sont au niveau P'. Et on fait la somme de ça, on le fait séquentiellement. On intègre séquentiellement, parce qu'il se peut, ça peut être très compliqué de faire ces formules, hein, en pratique, parce qu'il peut avoir 15 ou 20, 25 prix qui changent. Donc, c'est la formule très générale. D'accord? Et comment j'obtiens cette formule à partir de cela? Ben, c'est très simple. Ça, c'est rien d'autre qu'une différence de dépenses. Une différence de dépenses à un même niveau d'utilité. Ça, c'est le niveau d'utilité VI de P', WI'. C'est le plus grand niveau d'utilité possible que peut atteindre un individu au prix P', WI'. Et c'est la même chose ici. Et qu'est-ce qui change entre ça? C'est les prix. Et donc ça, c'est la différence entre des dépenses à des prix différents. Et donc, c'est une différence de deux primitives d'une fonction de demande xienne par le lemme de Shepard. La demande xienne par le lemme de Shepard, c'est la dérivée de la dépense. Et donc ça, c'est une différence d'antidérivée, si vous voulez. Et donc j'utilise le théorème fondamental du calcul différentiel et le lemme de Shepard pour obtenir... Pour obtenir cette expression de somme, et je l'applique de façon répétée, pour chaque prix qui change. Donc il y a une somme de prix qui change, et je fais une somme d'intégrale, comme ça. Et donc ça ici, bien sûr, ce niveau d'utilité, UI', c'est le niveau d'utilité maximale qu'atteint l'individu I lorsqu'il est confronté au prix P', W'. Okay? Et ça, c'est ce qu'on appelle le surplus xien agrégé du consommateur. Okay? C'est donc une intégrale, hein? C'est une somme d'intégrales. C'est une somme d'intégrales sous des courbes de demande. Donc, juste pour qu'on soit bien clair sur s'il y a un seul prix qui varie, que je peux faire des petits dessins, et un bien, eh bien, je vais avoir le prix du bien, price, je suis désolé, c'est en anglais, et vous avez la quantité du bien. J'aurais dû le mettre en français. J'ai une courbe de demande xienne, qui est là, et j'ai le prix PJ' qui était là, et j'ai le prix P. Et donc là, ici, j'ai ma somme. Ça, il faut voir que c'est une demande xienne du marché, la somme de toutes les demandes xiennes des 100 000 individus dans ma communauté. J'ai la somme de ces demandes-là, qui dépendent, bien sûr, d'autres prix que le prix du bien J, hein, qui dépendent d'autres prix, mais je ne vois pas ça dans cette représentation. J'ai également le prix du bien J qui est là, ici, qui a baissé, ou qui a, ici, il est passé de PJ à PJ', ou de PJ' à PJ, donc il a baissé. En l'occurrence, il a baissé, très bien, tant mieux pour lui. Et donc l'individu consommait cette quantité ici, en fait, ce n'est pas l'individu, c'est la somme des demandes xiennes. Hein. Donc tous les individus consommaient cette quantité agrégée. Ensuite, lorsque le prix était à PJ, les gens consommaient cette quantité-là ici, voilà, cette quantité-là. Et le surplus, c'est cette zone. Hein. Toute la zone qui est là, c'est le surplus, hein. C'est l'intégrale. L'intégrale sous cette demande, c'est la fameuse surplus de Dupuis. Okay. Qui nous donne finalement une mesure agrégée, hein, le surplus calculé sous la demande agrégée, et qu'on soustrait de la somme des revenus. Donc la règle générale, c'est qu'on somme les revenus, on prend la somme des revenus, si elle augmente, c'est bien, et puis on fait attention au changement de prix. On soustrait une R sous la courbe de demande. Alors, il faut bien sûr préciser qu'en pratique, souvent, le surplus du consommateur, on l'évalue sous des demandes marshalliennes, des demandes ordinaires, et pas les demandes xiennes. Hein. Souvent, les gens, ils les font sous des demandes marshalliennes plutôt qu'xiennes. Alors, ce n'est pas correct de faire ça, parce que le surplus marshallien ne mesure rien vraiment de très particulier. Hein. C'est celui... Mais par contre, effectivement, le surplus marshallien, on peut montrer que c'est une bonne approximation au niveau individuel de deux surplus xiens. Celui calculé au prix P, ce qu'on appelle les variations équivalentes, si les prix P sont les prix avant le projet, et celui calculé au prix P', qu'on appelle la variation compensatrice. Et on peut montrer que, sous des hypothèses un peu plus importantes que celles que j'ai faites là, le surplus marshallien d'un individu va être compris strictement entre ces deux surplus xiens. Et donc, si on prend les surplus marshalliens, on les somme, on va avoir quelque chose d'assez bon, mais c'est une approximation. Okay, on peut trouver ça dans Wheeling. Et c'est très utilisé, tout ça, en économie du bien-être appliqué partout. Dès que vous aurez des bouquins d'économie, vous aurez des surplus du consommateur. Tout le temps, on évalue ça à tir l'arigot et on sert de ça. On prend une demande agrégée et on prend le surplus en dessous. Souvent, c'est la demande marshallienne, on ne s'embarrasse pas de ces finasseries et on se réfère à Wheeling en disant c'est à peu près correct. Voilà. Et on fait ça comme ça. Donc là, l'intérêt, c'est que c'est très rapide à faire et c'est pratique. Alors, est-ce que c'est une fonction de décision collective d'Arrow, ça? Eh bien, la réponse est oui, hein, c'en est une. Ça viole légèrement l'hypothèse de domaine non restreint, parce que le surplus agrégé du consommateur est défini pour tous les profils d'ordre de préférence, les profils d'ordre de préférence qui égoïstes, convexes, monotones et continus sur RNL+, mais bien sûr, ce n'est pas défini pour tous les profils d'ordre. Donc, ça, il y a une petite restriction. Mais je vous ai dit que cette restriction est peu importante parce que le théorème d'Arrow est robuste, de toute façon, à l'assouplissement du domaine non restreint aux préférences économiques. Donc, ce n'est pas une violation importante pour le théorème d'Arrow. Bien sûr, c'est une règle qui satisfait la non-dictature. Il n'y a pas de dictateur ici. Hein. On additionne des mesures monétaires de bien-être. Donc, tout le monde a un peu un poids là-dedans, quelque part. Hein. Tout le monde gagne. Ça satisfait Pareto. Hein. Si tout le monde bénéficie de la politique, forcément, la somme des mesures monétaires va augmenter. Donc, ça vérifie Pareto. Ça vérifie la rationalité collective. Ça va générer un classement transitif et complet de tous les états de l'économie. Mais attention, les amis, ça va le faire si les prix de référence qui sont utilisés au pluriel, d'ailleurs, excusez-moi, dans l'évaluation monétaire de la satisfaction ne changent pas d'un état à l'autre. Il faut faire attention parce que des fois, il y a des petits économistes malins qui passent leur temps à changer les prix de référence. D'abord, on part d'une situation, là, on va à une nouvelle, et là, on a des nouveaux prix de référence, et là, on change les prix de référence et on continue. Si on change toujours les prix de référence, là, on va avoir des trucs assez incohérents, merci. Hein. Mais si on évalue une série de projets avec les mêmes prix de référence, c'est parfaitement cohérent, sans aucun problème. Okay. Mais ça viole l'indépendance par rapport aux alternatives non pertinentes. Donc, c'est une règle qui dépend de toutes les préférences des individus. On comprend bien que ça dépend de toutes les préférences observées par les demandes marshalliennes et que pour classer deux configurations de prix et de revenus, je vais utiliser une information beaucoup plus abondante que le simple classement qu'ont les individus de ces deux configurations de prix et de revenus sur la base de leurs préférences indirectes. Donc, ça viole l'indépendance et donc on peut tout à fait le faire. Alors, est-ce qu'on peut justifier éthiquement des telles règles, hein? Ben, si ça vous intéresse, il y a un papier récent qui l'a fait. D'ailleurs, ça a pris beaucoup de temps avant qu'on trouve des bons principes éthiques pour utiliser ça. Un papier de Chambers et Hayashi dans Social Choice et Welfare, en 2012, relativement frais, donc, du fourneau. Et la justification éthique, en fait, n'est pas super sympathique. Hein. Ce sont des critères qui sont extrêmement plutocratiques. Plutocratiques. C'est-à-dire qu'on s'intéresse qu'à l'argent, à la somme de l'argent gagné. Donc, on est absolument insensible, dans un sens très fort, à la distribution des richesses. D'ailleurs, on le voit un peu dans la formule que je vous ai donnée tout à l'heure, seul importe la somme des revenus. Il y a la somme des revenus qui apparaissait. Bien sûr, il y a ce terme compliqué des surplus du consommateur qui montre l'effet des variations de prix qui sont importantes. Mais si on enlève les variations de prix, si on regarde juste un problème où il n'y a que les revenus qui changent et pas de prix, eh bien cette règle nous dit on somme les revenus. Ben, sommer les revenus, c'est extrêmement insensible à la distribution de ces revenus. On se fiche de savoir si les revenus vont tous à Bill Gates ou sont également répartis. Donc c'est plutôt plutocratique, donc c'est pas, la justification éthique n'est pas très bonne. Et l'axiome qui caractérise cette règle-là, les axiomes, nous montrent bien cela. Donc c'est une série de règles qui ne sont pas super séduisantes, mais qui montrent quand même toutes les possibilités offertes par l'assouplissement de l'axiome donc d'indépendance par rapport aux alternatives non pertinentes, qui est donc très fort. Mais on peut voir que cette règle, en fait, a vérifié une version affaiblie de l'axiome de l'assouplissement des alternatives non pertinentes. Alors, je vais peut-être ici conclure provisoirement, peut-être on va pouvoir encore explorer quelques petites choses après, je vais conclure provisoirement l'exposé qui, donc, ici portait sur ce théorème d'Arrow et les difficultés qu'il nous pose lorsque la problématique qui est la nôtre en économie publique, c'est de définir un intérêt général en fonction des préférences individuelles. Donc l'ingrédient de base qu'on a utilisé, c'est l'idée que les individus avaient des préférences. Ils étaient capables de comparer de leur point de vue les états sociaux. Et on a montré que dans ce contexte, eh bien, l'impossibilité d'Arrow est assez sérieuse. C'est-à-dire que ce n'est pas facile de faire une bonne synthèse de ces préférences individuelles, lorsque ces préférences prennent la forme comme ça d'un ordre de préférence. Maintenant, et on pourrait le faire dans une autre leçon, et vous aurez l'occasion de le voir, on pourrait également envisager le problème de définir l'intérêt général en fonction des intérêts particuliers, comme étant un problème qui ne prend pas comme donnée première les préférences, mais qui prend comme donnée première des indicateurs plus structurés du bien-être ou du bonheur des individus. Donc ici, on n'a pas été très, très précis sur ce que signifiaient les préférences. On a dit les individus ont des préférences, et on prend ça comme donnée première. Mais il y a une tradition philosophique, utilitariste, qui remonte à Épicure, qui nous dit qu'en fait, on pourrait aussi utiliser sur les individus plus de choses que leurs préférences. On pourrait admettre, par exemple, que les individus ont un état de santé ou un état de bonheur. Un état de bonheur. Et on pourrait définir l'intérêt général comme étant une synthèse des bonheurs individuels. Une synthèse des bonheurs ou des bien-être individuels. Et les bien-être individuels seraient quelque chose de plus précis, de plus palpable, dans un sens qu'il nous faudrait préciser. Et à ce moment-là, si on accepte de faire cela, mais au prix quand même de certains courage épistémologique, parce qu'il faut qu'on accepte de dire que ben, y a une grandeur, qu'il y a un sens pour les individus qu'on peut mesurer, qui s'appelle le réel bonheur. Si on accepte de faire une synthèse des bonheurs au lieu d'une synthèse des préférences, on a beaucoup d'autres possibilités qui nous sont offertes, notamment les possibilités utilitaristes, les possibilités aussi proches des intuitions du philosophe américain John Rawls, sur le fait de privilégier l'intérêt ou le bien-être du plus mal loti. Et effectivement, on pourrait alors montrer qu'il est possible de définir de tels objets et de progresser dans notre définition de l'intérêt général par rapport aux intérêts particuliers. La seule chose que je dirais sur cette voie de recherche, qui serait examinée dans d'autres contextes, c'est qu'on peut le faire pourvu, et c'est un des grands résultats de cette théorie, qu'on accepte de comparer entre individus ces grandeurs, que sont le bonheur, par exemple. Il faut que le bonheur soit comparable entre individus. Il faut qu'on soit capable de définir des projets publics ou de l'évaluation de projets publics qui reposent sur une comparabilité du bonheur. Mais qu'en revanche, si on se refuse à comparer les bonheurs, on retombe exactement dans les mêmes problèmes qu'Arrow, et qu'on peut donc revoir Arrow comme étant en fait le reflet d'un refus de comparer les bonheurs. Mais que si on est prêt à comparer les bonheurs, on peut aller beaucoup plus loin. Alors je m'arrêterai là.